cette nouvelle émission du créneau littérature, Radio Albigès s'est rendue à la librairie Clair-Obscur d'Albi pour une soirée dédiée aux contes. Viviane Valois, conteuse, nous propose des lectures de contes et propose également au public de créer et d'imaginer leurs propres contes.
Merci d'être là. Pour représenter, s'il y a des petits nouveaux, la configuration, ce qu'on veut proposer à la librairie une fois par mois, c'est une rencontre littéraire sur divers sujets. On a eu déjà fait autour des romans, autour des sujets de société, des enjeux de société. Et ce soir, c'est Viviane Valois qui va être avec nous pour nous présenter les contes du monde entier. Donc ça se fera en deux temps. Il va y avoir une première partie où elle va donc présenter ses fameux contes. Et dans une seconde partie, sera proposé en fait de faire un côté interactif et de co-créer un conte avec les groupes ou les groupes qui voudront bien se constituer.
Donc merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup à Marco de nous accueillir dans cette librairie. Quoi de mieux qu'une librairie pour compter ? Une médiathèque, une librairie, tous ces endroits où on est entouré, c'est un très bel écrin, on est entouré de tous ces livres et de toutes ces histoires. Parce que des histoires, il y en a partout. Elles nous traversent, elles sont partout, elles sont dans ce que je vais raconter. Alors, je ne vais pas raconter tous les contes du monde, parce qu'il faudrait beaucoup de temps. J'ai fait un choix. Dans cette soirée, d'avoir d'abord une partie où je vais vous raconter des histoires, quelques contes que j'aime particulièrement, qui me plaisent, parler aussi de conteurs et de conteuses qui sont importants pour moi. Et puis ensuite, on va vous proposer effectivement une petite partie interactive et créative avec un jeu qui s'appelle Raconte-nous, un jeu de cartes qui se trouve ici. Et on va vous, rapidement, si vous le souhaitez, vous avez envie, vous permettre de construire une histoire avec un héros, une héroïne, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe, qui va vivre une aventure dans un paysage avec un décor. Donc, par petits groupes, l'idée, c'est que vous puissiez piocher des cartes. Alors, elles sont un peu à l'aveugle, parce que l'idée, ça sera de les retourner, de voir la surprise de ce que vous allez piocher. Et puis, en groupe, de définir une petite histoire. Et puis, peut-être de si vous avez envie de la partager avec l'ensemble du groupe, de le faire, et sinon de repartir avec votre petite histoire. Voilà. Si ça vous plaît, si vous êtes OK là-dessus. Voilà. La première étape de ce voyage nous emmène en Afrique et au Danemark, parce qu'il y a un auteur que j'aime particulièrement, ça va parler à certains d'entre vous, c'est Karen Blixen. Voilà. Et puis, cette fameuse ferme africaine, où elle est partie en fait en 1914, en Afrique, au Kenya, pour exploiter, elle a acheté avec son mari, c'était une baronne, la baronne von Blixen, elle est partie en Afrique. Et donc elle a exploité pendant quelques années cette ferme avec son époux. Elle est rentrée en 1930 à peu près en Europe. Et donc dans cet ouvrage, vous avez une description absolument formidable, moi je vous le conseille si vous ne l'avez pas lu, de l'Afrique, de ses paysages, de ses animaux, et de toutes les personnes qu'elle a pu côtoyer en fait pendant son séjour. Donc elle est partie, elle est partie à l'aventure. Donc elle a exploité cette ferme pendant un certain nombre d'années seule ensuite parce que son mari est décédé. Et vous connaissez certainement la ferme africaine, en tout cas par Out of Africa. Voilà, le film de Sidney Pollack, de 1985, avec Meryl Streep et Robert Redford. Bon, voilà, c'est un couple, beau. Voilà, alors, dans le film, c'est vraiment un focus, en fait, sur l'histoire d'amour qu'elle a vécue avec ce personnage, un aventurier, Denis Fish Hatton, qu'elle a rencontré, en fait, là-bas. Mais quand on lit le livre, il y a beaucoup plus que ça, en fait. Donc, il y a vraiment toute la description de l'Afrique. Et voilà, je voulais commencer par ce personnage et cette conteuse qui, pour moi, est très importante. Et elle avait une devise que je trouve très intéressante aussi pour le conte, qui démarre le livre, qui était « Monter à cheval, tirer à l'arc et dire la vérité ». Voilà. Je l'ai trouvé intéressant. Alors, je ne sais pas monter à cheval, je ne tire pas à l'arc. Non. Mais dire la vérité, quand on est conteur et conteuse, c'est quelque chose d'important, même si on dit que le conte, c'est mentir pour mieux dire la vérité. Hein, voilà, le conte, c'est un faux témoignage, en fait. Hein. On fait comme si on l'avait vécu, même si ce n'est pas vrai. Voilà. Donc voilà, j'avais envie de commencer par cet auteur, et puis ensuite de vous parler d'un autre personnage aussi important et d'un conte que j'aime beaucoup, que tout le monde connaît, Ovide, je pense, les métamorphoses d'Ovide, très important dans les contes, 250 histoires, 12 000 vers, 15 volumes. Voilà, ça vous place un peu la prolixité du personnage, en tout cas. Et une histoire que j'aime beaucoup, qui est aussi en lien avec la vérité, c'est Arachné. Je ne sais pas si vous connaissez le mythe d'Arachné. Peut-être que vous verrez les araignées un peu différemment après, parce que ça parle de ça. Voilà. Arachné était donc ça se passe à l'Antiquité, hein, à l'époque où il y avait des dieux et des déesses et des humains qui vivaient en intelligence, en bonne intelligence ou pas, pas toujours évident, hein. Et donc Arachné était une jeune fille qui avait un grand talent, elle tissait. Elle tissait des paysages merveilleux. Le village dans lequel elle vivait était complètement ébloui par les tissages qu'elle faisait de paysages avec des couleurs extraordinaires. Elle tissait des épopées, elle racontait l'histoire des dieux, des humains. Voilà. Et Athéna, et donc une déesse, parce que les dieux passaient beaucoup voir ce qui se passait chez les humains, hein, quand même, était venue un peu là, voir ce qui se passait dans le village. Elle avait entendu parler, Athéna, parce qu'elle tissait aussi, hein, de cette jeune Arachné, dont on lui disait qu'elle tissait merveilleusement bien. Bon. Athéna, déesse de la guerre, avait aussi une caractéristique, elle était assez jalouse, voilà, même très jalouse. Donc elle se grime en vieille femme, elle se grime en humaine, et elle va dans le village et elle voit effectivement cette jeune femme qui tisse merveilleusement bien. Et donc elle décide de mettre en place une compétition. Il y aura deux métiers à tisser au milieu du village, Athéna qui tissera et Arachné. Et les villageois, on leur demandera leur avis et on leur demandera qui est la meilleure tisseuse. Alors évidemment, quand les villageois ont compris que c'était Athéna qui venait tisser, ils ont eu un peu peur, parce que voilà, c'était quand même pas évident de dire que peut-être c'était Arachné qui était la meilleure tisseuse, mais enfin bon, bref. La compétition commence, les deux commencent à tisser, et effectivement, Arachné fait un truc absolument merveilleux, avec des couleurs splendides, et elle se met quand même, parce qu'elle était un petit peu audacieuse, cette Arachné, à tisser les histoires des dieux, et en particulier, elle représente Zeus, qui était le père d'Athéna, avec ses conquêtes. Ça ne plaît pas du tout à Athéna, voilà, qui elle-même fait son tissage, en racontant la vie des dieux, la vie de l'Olympe, de manière très classique. Et donc, au bout d'un moment, voyant qu'en plus, Arachné a fait le meilleur tissage, le plus beau, et qu'en plus, elle se moque des dieux, décide de détruire ce tissage. Donc, elle bondit sur Arachné, elle détruit le tissage et elle la poursuit dans le village. Arachné rentre chez elle, s'enferme dans sa chambre et de peur et de tristesse, décide de mettre fin à ses jours. Donc elle se pend, c'est le mythe qui raconte. Hein. Arachné arrive dans la chambre, Athéna arrive dans la chambre, Arachné est morte, donc pendue, mais Athéna décide de lui rendre la vie. Et elle lui dit... Eh bien, tu fileras tout au long de ta vie et tu seras comme une araignée. Tu deviendras l'araignée, la mère de toutes les araignées. Donc, on dit qu'Arachné est la mère de toutes les araignées et que quand vous voyez une araignée, regardez-la de manière différente parce que voilà, peut-être qu'elle a été humaine aussi quelque part à un moment. Voilà. Les araignées, au Moyen Âge, on les appelait les fées du logis. Donc voilà, et on disait que, on dit toujours parfois que d'avoir des araignées chez soi, c'est d'avoir une maison saine. Hein, voilà, donc l'histoire d'Arachné. Je vous propose maintenant de partir dans un autre univers complètement différent, de partir dans le Grand Nord, voilà, de partir chez les Inuits.
Ooh.
très longtemps, au bord d'une falaise, on a vu une jeune fille se disputer violemment, peut-être avec son père, avec son mari, avec son frère, on ne sait pas. En tout cas, les témoins disent qu'elle a été précipitée de la falaise. Elle est tombée directement dans la mer, cette mer glacée. Et on dit qu'elle est morte immédiatement. Et cette femme, cette jeune femme, descend dans la mer, son corps descend dans la mer et, à un moment, se pose sur le sable au fond de la mer. Elle reste là un certain moment, un certain temps. Les petits poissons mangent sa peau, ses muscles. Il ne reste plus que ses os et que son squelette. Mais il reste au fond de la femme squelette une petite flamme. Une petite flamme qui continue à briller, à vibrer. Certains disent qu'il s'agit d'une âme, mais je n'en sais rien. Et elle reste là. Et elle voit les poissons. Elle voit tout ce qu'il y a au fond de l'eau. Et c'est tellement beau, c'est tellement serein par rapport à tout ce qu'elle a vécu quand elle vivait sur la terre. C'est incroyable parce qu'il ne reste plus que les eaux, mais elle arrive à voir. Et ce qu'elle voit, elle voit des petits poissons qui passent entre ses eaux, qui se promènent. Elle voit les étoiles de mer, elle voit les algues. C'est très beau le fond de l'eau. Et quand elle lève la tête, elle voit aussi le soleil. Elle voit le soleil qui perce la mer. Et ça la réchauffe. Elle voit les nuages aussi qui passent. Et puis un jour, elle voit aussi les bateaux, les barques des pêcheurs. Alors elle voit juste le fond des barques qui passent, qui s'arrêtent. Elle voit aussi les fils de pêche qui descendent, qui passe à côté de son corps, et qui remonte les poissons, la pêche somme toute. Et puis un jour, il y a un fil de pêche qui arrive comme ça, et qui s'en mêle dans ses os, dans son squelette. Et elle se sent remonter vers le haut. Elle ne comprend pas très bien ce qui se passe, mais plus le fil remonte, et plus elle remonte aussi. Ses pieds ne touchent plus terre. Et elle voit l'eau se rapprocher, le bord de l'eau, et le soleil, petit à petit, être plus proche d'elle. J'ai une sensation étonnante. Dans sa barque, le pêcheur, il pense qu'il a pris une très grosse prise. Parce que quand il essaye de remonter sa ligne, son fil de pêche, c'est de plus en plus dur. Alors il s'y met de plus en plus fort, il tire de plus en plus fort, oïs. Il se dit, franchement, ça doit être super, ce que j'ai pêché. Et il tombe tellement à la renverse, dans son bateau, d'avoir tellement tiré. Et là, il regarde et il prend peur. Il a pêché une créature, il a pêché un monstre, il a pêché quelque chose qu'il n'a jamais vu. Alors, il se retourne et puis il commence à prendre ses rames et puis il commence à vouloir se sauver. Mais évidemment, la femme squelette, elle est sur la barque, elle est emmêlée dans le fil de pêche, donc elle le suit. Et à chaque fois, il se retourne avec autant de peur et de frayeur, et elle est toujours là. Et il continue à avancer, il rame, jusqu'au quai, il saute sur le quai, et il se dit, ça y est, elle ne va pas me suivre, le monstre ne va pas me suivre. Et il se met à courir avec son matériel, il a pris le fil de pêche, il se retourne, elle est toujours là, évidemment. Elle ne peut pas faire autrement. Elle est entraînée par le fil de pêche. Et il rentre chez lui. Et là, c'est le soir, la pénombre. Et là, il se dit, qu'est-ce que je suis bête. Et il regarde et il se dit, c'est un squelette que j'ai pêché. J'ai eu peur d'un squelette. C'est pas un monstre, c'est juste un squelette. Ça arrive parfois. On lui avait raconté que ça pouvait arriver. Il s'approche du squelette. Et puis, il se dit quand même, elle est toute en berlificotée. Puis lui, il veut récupérer son fil quand même, son fil de pêche. Et puis les os sont complètement sans dessus dessous, la tête sous la jambe, le pied avec la main, c'est vraiment n'importe quoi. Donc, il l'installe sur une chaise tranquillement et il se dit, que d'abord, il va réembobiner son fil, et puis il va la remettre un peu d'équerre. Donc, il remet tout doucement, tranquillement, avec beaucoup de douceur, la tête au bon endroit, le pied au bon endroit. C'est tout un travail de remettre un squelette en l'état. Hein. C'est, ben, si vous l'avez déjà fait, moi non, mais je sais que c'est du travail. Il y a beaucoup de petits os, il y a beaucoup d'os. Et donc, elle, cette petite flamme, souvenez-vous, cette petite flamme qu'elle a en elle, ben, ça la réchauffe encore plus. Elle se dit, pour une fois, quelqu'un est doux avec moi. Cette douceur, je ne l'ai jamais connue. Et voilà, elle se laisse faire. La petite flamme est encore plus vacillante qu'avant. Et au bout d'un moment, l'homme vit seul. Il est tout seul dans sa maison. Il fait du feu parce que bon, il commence à faire froid. Il se dit que peut-être, bon, elle est restée au fond de l'eau quand même un certain temps. Donc, c'est humide hein, là-dessous. Donc, ouais, il fait du feu. Il pense que peut-être ça va la réchauffer. Je ne sais pas. Il lui met même une couverture sur les épaules. Voilà. Et puis ce soir-là, cet homme seul mange. Après avoir fait du feu, il mange tranquillement en face de cette femme, il lui parle, il lui raconte des choses, peut-être des anecdotes, je ne sais pas. Puis il est très fatigué, parce que c'est vrai que c'est quand même beaucoup d'émotions, hein. Il a eu très peur. Donc la journée a été rude, donc il décide d'aller se coucher. Et très vite, il se met sous sa peau de bête, sur son lit, et il s'endort. La femme squelette, dans cet endroit, elle est vraiment bien. Elle est réchauffée. Et c'est incroyable. Hein, elle n'a pas de muscles, elle a juste son squelette. Et elle arrive quand même à se remettre sur ses jambes. Et elle arrive quand même à avancer et aller jusqu'au lit de l'homme. Elle le regarde dormir. C'est tellement beau. Il a l'air tellement tranquille. Voilà. Elle en vit de revivre peut-être sa vie de femme. Alors elle s'approche de lui, et avec ses mains, ça fait pas mal du tout, hein, je préviens. Parce qu'elle est très délicate, puis c'est une histoire, c'est l'imaginaire. Hein. Donc elle plonge ses mains dans le corps de l'homme, et elle lui prend son cœur. Et lui, il n'a rien senti, hein. Il dort. Enfin, c'est comme ça. Voilà. C'est un peu magique, hein. Les histoires inuites, hein. C'est des histoires de chamans aussi, c'est un peu... Voilà. C'est un peu magique. Et elle prend ce cœur dans ses mains, et ce cœur qui bat, ce cœur qui bat, ce cœur qui bat, eh ben, ça lui permet de retrouver de la vie. Ses cheveux repoussent, elle retrouve la peau sur son corps, ses ongles repoussent, ses yeux sont là, ses cheveux sont là. Elle retrouve toute sa vie de femme dans ce cœur qui bat. Qui bat. Une fois qu'elle est redevenue complètement femme, elle remet très délicatement, j'insiste, le cœur dans le corps de l'homme. Il n'a toujours rien senti. Elle est redevenue femme. Un peu froid. Alors, elle soulève la peau de bête du lit et elle se couche contre l'homme et elle remet la peau de bête sur eux deux. Et on dit que le lendemain matin, eh ben, l'homme, le pêcheur, avait trouvé une femme, non plus une femme squelette, et que depuis, ils vivent ensemble, très heureux. Surtout les contes chamaniques, il y a beaucoup de transformations, de métamorphoses, comme dans les métamorphoses d'Ovide. Voilà. C'était un très grand conteur, Ovide, hein, donc voilà. Hein. C'était un collecteur d'histoires, hein, donc voilà. Comme dans les contes inuits, il y a beaucoup de collectage aussi, hein, avec des chamans qui racontent ces histoires. La dernière histoire que je voudrais vous raconter, le dernier conte, parle un peu d'exil. C'est l'histoire d'un roi dans un pays lointain qui à cause de la guerre, avait été obligé de partir. Alors, il avait une femme qui était enceinte et il avait décidé de faire peindre son château, le parc et la mer en son entier. Et il se demandait s'il était possible de peindre la mer en son entier. Mais il avait demandé à un peintre de le faire. Le peintre a accepté, tout en se demandant lui-même s'il était possible de peindre la mer en son entier. La peinture a commencé, et puis la guerre s'est accélérée, le tableau n'a pas été terminé, le roi est parti avec sa femme, qui était enceinte, avec le tableau. La guerre s'est terminée très très longtemps après, le roi était mort, son fils était né, et pendant toute son enfance, il voyait le tableau, et sa mère lui disait « Un jour, nous retournerons dans le château, dans notre pays, dans le parc, près de la mer, et peut-être que nous pourrons demander au peintre de finir le tableau et de peindre la mer en son entier. » Le fils se demandait s'il était possible de peindre la mer en son entier. Et la guerre s'est terminée, et le fils est revenu dans son pays. Entre-temps, il avait grandi, il avait pris femme, et il revient avec le tableau, dans son château. Et là, il est très mécontent, parce que le tableau était beaucoup plus beau que la réalité. Alors, il a fait retrouver le peintre. Il l'a fait venir au château. Et il lui a dit, premièrement, tu vas finir le tableau. Parce qu'il faut que tu peignes la mer en son entier. Mais tout le monde se demandait s'il était possible de peindre la mer en son entier. Enfin bon. Et deuxièmement, ensuite, je te ferai exécuter. Parce que toute mon enfance, j'ai vu ce tableau. Et quand je suis revenu, j'ai été déçu par la réalité. Le peintre dit d'accord, bon, pas trop le choix quand même. Donc il installe son matériel dans le château et il commence à peindre, et à peindre, et à peindre. Et il peint la mer prend toute la place dans le tableau, beaucoup de mer. Et puis il fait venir des nuages dans le tableau, un peu de vent, un orage peut-être. Il peint une petite barque sur le tableau, une petite barque qui, avec le vent et avec la tempête, se rapproche de plus en plus du bord du tableau. Pendant ce temps-là, il a tellement peint la mer que la mer a commencé à sortir du tableau, à monter dans les étages. Les courtisans ne comprennent pas ce qui se passe dans le château. C'est une inondation. Voilà. On voulait la mer. La voilà. Et puis le bateau arrive, il sort du tableau, et le peintre monte dans le bateau et, grâce au vent et à la tempête, disparaît et sauve sa vie. Et il avait peint la mer en son entier. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté. Ce que je vous propose, c'est maintenant de passer à la partie créative. Voilà. Si vous avez envie d'inventer des histoires, hein, voilà, des histoires. Alors, j'ai oublié de vous dire que je suis conteuse, mais je suis aussi hypnothérapeute. Donc les histoires de vie, les histoires qui nous traversent, ça m'intéresse évidemment. Hein. Et les histoires qu'on peut créer aussi, voilà, que ça m'intéresse aussi. Alors il y a un jeu de cartes là qui s'appelle Raconte-nous. Vous avez des cartes alors que j'ai retournées parce que c'est mieux de les piocher un peu à l'aveugle, c'est-à-dire de pas choisir ce qu'on va trouver dans ces cartes. Donc il y a trois types de cartes. Il y a des cartes personnages. Donc les cartes personnages, bah, c'est le héros ou l'héroïne de l'histoire. Voilà. Donc vous allez voir ces cartes, je vous en montre juste une. Voilà. Elles sont simples, il n'y a pas beaucoup de couleurs, il y a juste un trait. C'est pour justement vous permettre d'imaginer, à partir de ce personnage, qui est cette héroïne, voilà. D'où elle vient, voilà. Faites-vous votre petit cinéma, votre petite histoire. Voilà. Donc une carte personnage à tirer. Une carte décor à tirer et une carte objet aussi. Et donc, ce que je vous propose, c'est déjà de, voilà, en petit groupe, 2-3 personnes, de tirer ces trois cartes et puis de décider ensemble bah, qu'est-ce que vous allez inventer comme histoire à partir de ça? Peut-être, alors j'ai des feuilles là avec des stylos si vous voulez écrire votre petite histoire. Et puis ensuite, de la partager avec tout le groupe, si vous êtes OK là-dessus. Pas d'obligation. Voilà. Est-ce que c'est d'accord pour vous? On part sur cette partie créative? On se lance? Il n'y a pas d'enjeu, hein. C'est cool. Hein. Voilà. Hein. OK? Voilà. Ben, on se donne, je sais pas, un quart d'heure, ça vous va? Hein, un quart d'heure pour inventer, créer. Il faut que ce soit spontané. Hein, voilà. Voilà. Hein, voilà. Et ben voilà. Allez, au boulot. Vous ne saviez pas que vous alliez bosser en plus. Donc, voilà. Voilà. Si vous vous connaissez pas, c'est le moment de faire connaissance. Voilà.
On en profite justement pour faire connaissance avec Viviane Valois.
Viviane, depuis quand tu comptes et avec quelle envie ?
Depuis très longtemps, je crois. J'ai commencé à faire du théâtre en fait quand j'étais très jeune. Et puis, en fait, le compte m'est un peu tombé dessus. Je ne sais plus très bien pourquoi. Par la liberté, je pense que ça donnait. Par le fait qu'on raconte avec ses propres mots. Et que ça, que je trouvais une liberté formidable par rapport au théâtre. Que j'aime toujours autant, hein, mais voilà. Et puis l'envie que j'ai, c'est justement ce qu'on est en train de faire là, de donner de la créativité, de nourrir l'imaginaire et justement de s'évader aussi avec ces histoires qui sont importantes parce qu'elles ont des messages à nous donner, à nous murmurer à l'oreille.
Tu es hypnothérapeute, est-ce que tu utilises le conte dans ta profession ?
Oui, absolument. Alors, c'est pas des histoires qui existent, mais c'est des métaphores. On utilise la métaphore, en fait, hein, parce qu'on envoie des petits messages à l'inconscient à partir de ce que viennent nous donner comme informations et comme difficultés avec lesquelles on peut travailler. Et donc, oui, bien sûr, on fait des métaphores et on invente des histoires qui vont permettre aux personnes qu'on accompagne de cheminer plus sereinement, en fait. Voilà.
Est-ce qu'il y a un conte que tu affectionnes beaucoup ? Est-ce qu'il y en a un qui t'a plus marqué que les autres et qui qu'aujourd'hui tu ressors ?
Bah, la femme squelette, c'est un conte que même si je me dis que je ne vais pas le raconter, eh ben, il revient quand même toujours parce qu'il est très fort pour moi. Et puis tous les contes qui parlent des femmes aussi, Cendrillon. Voilà, tous ces personnages. Il y a quand même, je pense, plus de 500 versions de Cendrillon dans le monde. Et c'est un personnage intemporel, en fait.
Ouais. Je rebondis sur la place des femmes dans le conte, qui a été souvent malmenée comme place. Est-ce que tu trouves que cette place évolue avec des contes plus modernes ? Ou est-ce que où est-ce qu'on peut se laisser la place d'improviser de nouveaux contes avec la même histoire ?
Bien sûr, on peut improviser. Après, il faut savoir aussi que ces contes ont été collectés dans les campagnes, souvent par des hommes. Et donc, la lecture qu'en ont fait les hommes, les ont cantonnés en fait, dans des clichés. Et quand on regarde les contes dans la réalité, quand on croise les versions, on retrouve véritablement la force des femmes. Voilà. Mais il faut savoir que c'est ça, en fait. Les frères Grimm, c'est des collecteurs, hein. Donc il y a beaucoup de collectages qui ont été faits et faits par des hommes. Donc on peut retrouver les contes traditionnels, les relire, réinventer et le pouvoir des femmes est très important en fait dans ces contes.
Est-ce que tu as d'autres événements où tu vas compter bientôt sur Albi ou ses alentours ?
J'organise en fait un café des récits régulièrement tous les deux mois à Albi où on parle, moi j'amène des textes, des musiques, à chaque fois on est sur un thème et l'idée c'est que les personnes, alors ça peut être des contes mais ça peut être des nouvelles aussi que je lis, etc. Ça fait partie de la bibliothérapie créative aussi hein, que j'aime beaucoup, sur lequel j'aime beaucoup travailler et donc les personnes viennent raisonner en fait et créer du lien autour de ces textes. Et à chaque fois, on choisit un thème différent. Donc, le dernier thème, c'était paroles et musique. Et le prochain thème, je donne la date, hein, ce sera le 15 novembre, chez Espace & Co, qui est un espace de coworking sur Albi. Et ce sera Osé.
Viviane, ce soir, tu m'as demandé d'utiliser de la musique pour venir illustrer un conte. Quelle place tu donnes à la musique sur le conte, justement ?
Elle est très importante parce qu'elle donne le rythme. Il y a un rythme dans le conte, hein, il y a un rythme dans les mots. Et en fait, la musique aide à s'évader, bien sûr, mais à donner le rythme aussi du conte. Donc, il est très, très important. Alors, ça peut être une musique enregistrée, mais ça peut être travailler avec des percussions, ça peut être travailler avec des musiciens sur place. Voilà. Ça peut même être faire marquer le tempo par les personnes, en fait. Donc voilà.
Pour nos auditeurs, du coup, où est-ce qu'ils peuvent retrouver plus d'informations sur tes prochaines dates ?
Alors, il y a deux choses. Il y a donc, j'ai une page Facebook, Les Arts qui bougent, parce que c'est mon association. Donc, on peut retrouver sur la page Facebook Les Arts qui bougent, Viviane Valois, mon actualité. Et sinon, il y a aussi l'actualité en tant qu'hypnothérapeute et conteuse sur mon site www.recicoaching.com.
Viviane, merci.
Merci beaucoup, en tout cas, merci à toi. On va passer à la restitution, hein, des petites histoires. Alors, je vais vous passer le micro. Hein. Donc, voilà, pour chaque histoire. Peut-être aussi, c'est intéressant de voir quelle carte vous avez tirée, d'abord. Voilà, les trois cartes, et après l'histoire. Ok, hein. Ah, on commence par la jeune fille. Allez, on te passe le micro. Allez.
Une jeune orpheline aventurière fait une croisière sur le Nil. Elle tombe sur une cafetière magique. Elle la frotte et fait un vœu, avoir des parents. Elle reprend son voyage, fait des rencontres fabuleuses. Mais toujours pas de parents en vue. Malgré tout, elle rencontre plein de belles personnes, des amis formidables qui seront sa nouvelle famille.
Super histoire. Merci. Alors, je passe le micro à qui ?
Il était une fois un livre perdu qui sommeillait au fond d'une cascade enchantée. Madame Châtaignier, donc c'est cette dame qui s'appelle Madame Châtaignier, à la recherche de son chat, arrive à la cascade et comme c'est une grande passionnée de lecture, elle dit, elle s'exclame, « Mille adieux, 20 000 lieues sous les mers !» Et en raison de l'urgence, elle s'écrie « Tant pis, avec ou sans maillot, j'y vais !» Elle plonge. Et soudain, subitement, la cascade se fige. Grand-mère Châtaignier se retrouve comme à ses 20 ans où elle fut championne internationale de patin à glace en couple, dans des arabesques acrobatiques qui la font s'envoler telle une baudruche, car le livre s'intitulait « 5 semaines en ballon ». Et c'est signé Jules V.
Alors, nous avons donc les cartes. Un jeune homme. Un théâtre vide. Et une lampe. Ce jeune homme est un comédien. Il fait du théâtre depuis plusieurs années. Mais hélas, il n'a pas de succès. Le public n'applaudit pas lorsqu'il est sur la scène. Alors un soir où il est vraiment désespéré, où il ne sait plus s'il pourra continuer, parce que ce métier lui plaît, ces rôles de comédien lui plaisent, mais là il est vraiment trop découragé. Et alors il est sur le bord de la scène, tout seul, dans ce grand théâtre, et il voit une petite lumière. Derrière le rideau, il s'avance, il s'approche, et c'est une lampe. Alors cette lampe lui apporte un peu de courage, un peu de chaleur. Et là, il se dit, allez, je vais essayer de continuer. Je vais me remettre, je vais retrouver de l'énergie, et je vais continuer à jouer. Un soir, donc, il y a une pièce qui va se dérouler dans laquelle il joue. Bon, mais il est un peu sceptique, il n'est pas sûr de lui toujours. Et de temps en temps, il regarde de côté, il voit la lumière de la lampe. Alors il se dit, bon, il faut que j'aie du courage. Et là, ses peurs disparaissent doucement, ses bégaiements aussi. Il devient un peu plus fort, un peu plus sûr de lui. il a retenu ce texte. Eh bien, croyez-le si vous voulez, mais au fil de cette représentation, il est prêt à assumer des rôles alors qu'il ne pouvait pas auparavant. Et alors le théâtre se remplit de plus en plus au fil des soirées. C'est une ovation même, un soir, à la fin d'un spectacle, une véritable ovation. Alors Eugène est aux anges, et il reste là, et la petite lampe reste toujours allumée pour Eugène. Voilà.
Alors, moi, je plante le décor, un cimetière. En objet, un ordinateur. Et en personnage, une souris. Du coup, c'est l'histoire de Nina, la petite souris. Ça fait 2 ans qu'elle est plutôt dans des placards, dans des celliers. Et elle avait envie de grand air, Nina. Alors la voilà partie dans son village. Elle s'arrête au cimetière, mais ce qu'elle préfère au cimetière, c'est se rouler dans les feuilles et dans les fleurs qui sont fanées. Elle adore ça, elle y passe toute sa journée. Un soir, un peu à la pénombre, elle entend comme un bruit bizarre, une lumière bleue, elle s'approche, séduite par un grand objet, qui dit « Salut !»« Salut, t'es qui ?»« C'est moi, monsieur l'ordinateur. »« Monsieur l'ordinateur ?» Et tous les deux filèrent un amour, en tout cas ce soir-là, d'une souris et d'un ordinateur. Puis, tout d'un coup, l'ordinateur lui dit « Mais tu sors d'où ?»« Oh, d'un petit cellier où j'étais restée une petite année, c'était sympa, mais c'était toujours la même chose. Et toi, tu sors d'où ?»«
D'un petit peu plus bas sous terre. On m'avait enfermé dans une boîte, mais il était hors de question que je y reste. »«
Ah bon ? Il n'avait pas encore mis la dalle, c'est pour ça que j'ai pu facilement sortir, juste sous la terre. » Du coup, elle se dit « Mais t'arrives de dessous la terre. » Et tous les deux s'inventent et se disent « Mais si tu étais toi sous la terre, il y a peut-être plein d'autres ordinateurs aussi sous la terre. » Et tous les deux cherchent un système de connexion. Ils y arrivent, enfin. Monsieur l'ordinateur se connecte à un autre ordinateur dans le même secteur du cimetière du Poincaré. Et là, les messages ont commencé.
« Tu trouves pas qu'il fait un peu froid ici ? Je suis un peu à l'étroit pour ma part. »
J'y vois rien. Et vous? Il y a comme une odeur bizarre par chez moi. » Et tous commencèrent à communiquer. Nina, la petite souris, elle s'occupait surtout de la logistique. Savoir si la connexion se faisait bien, savoir si tous les ordinateurs se portaient bien, jusqu'à ce qu'ils s'organisent une petite soirée numérique. Assez sympa entre eux. Un soir, une fois le cimetière fermé, ils attendirent 2 heures et tous les ordinateurs se sont réunis. Tout le monde retourna se coucher dans son emplacement attribué. Et puis la communication dura comme ça pendant 1 année, à peu près, où chacun se racontait un petit peu son évolution. Nina, un jour, arrive au cimetière et on l'interpella tout de suite. « Monsieur l'ordinateur,
je n'ai plus aucun message, non plus aucun message. »
Nina, très affûtée, très technicienne, commence à aller voir, revient l'air badaud et dit « On nous a coupé le fil de la Wi-Fi. » Et finalement, monsieur l'ordinateur et Nina repartirent tous les deux en disant « Il est peut-être temps qu'on les laisse tranquilles 5 minutes. »
Super, merci beaucoup. Vous voyez, avec 3 petites cartes, hein, ce qu'on arrive à faire, et comment l'imaginaire qu'on a vraiment en nous part tout de suite. C'est extraordinaire quand même. Hein. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas. Et lisez des contes, écrivez, rêvez, racontez. C'est génial, hein. Il y a plein d'histoires ici. Donc voilà. Alors je vais vous lire une petite histoire pour terminer. Donc c'est une petite recette pour rencontrer les fées. Comme ça, voilà, vous serez parés pour le week-end, hein, vous aurez tout ce qu'il vous faut, avec vos histoires et cette recette. Osez y aller de nuit, seul, tout seul, dans cette forêt ronde, au bout du champ d'orgueil. Il vous faudra d'abord savoir abandonner tout l'inutile que nous savons trimballer. Mettez dans un trou la peur et les souvenirs, l'envie aussi, le doute et puis le réfléchir, le savoir, le jugement, la raison, la pensée. Laissez tout dans le trou, filez sans regretter, ne gardez que le voir, l'entendre, le sentir. Quand vous serez rendu dans cette forêt ronde, il vous faudra savoir vous tenir dans ce monde, devenir poignée de terre, raie de lumière, peut-être ver de terre ou poussière. Taisez-vous, reniflez, écoutez, regardez. La lune bleutée et sa lanterne ronde donnent des ombres longues aux arbres des chemins. Dans chaque broussaille, dans chaque fourré, on dirait des étoiles simplement posées. Dans un toupet de brume, un mouvement nacré, c'est un voile de soie, c'est un voile de fée. Ces dames lointaines aux contours incertains, qui mendient notre foi pour être libérées. Ces dames marraines aux souliers de satin, qui nous donnent et le noir et le blanc du destin. Ces dames catins de légèreté insoutenable pour notre lourdeur misérable. Ces dames fileuses aux fuseaux appliqués, qui nouent et qui dénouent les souffles de nos jours, et qui laisse des fils en longs cheveux noués au bord des chemins creux. Ces dames blanches, ouvertes, ces fées. Ces dames tour à tour maudites ou fragiles qui boivent parfois la rosée, parfois le sang. Ça dépend de l'humeur, ça dépend de l'amant. Elles nous affolent de joyeuses voluptés, mais leurs caresses nous broient et nous tirent à la mort. Elles nous offrent un caillou, une feuille. Attendez, ouvrez donc votre main, regardez, c'est de l'or. De nos peurs, de nos rêves, elles gardent le trésor. Elles passent, glissent, hantent les sources sacrées. Elles s'y penchent, s'y mirent, y puisent leur jeunesse. Dans leurs mains baguées de pluie et d'écorce, elles sont ce que nous sommes de plus doux, de plus dur. Elles sont le clair-obscur. Voyez comme elles dansent. Voyez le sable d'argent qui tombe de leurs pieds. Voyez ces gestes lents, la neige des manteaux, le givre découpé en couronne de vierge, les robes diaphanes, les ceintures de lierre. Voyez comme elles dansent. Et si vous ne voyez rien, au moins, faites-moi confiance. Merci. Merci beaucoup. Voilà, c'était un texte de Patricia Gaillard, qui est une conteuse qui n'est pas d'ici, du Jura, mais qui fait des super réécritures en fait, de contes traditionnels et qui écrit beaucoup et qui a écrit ce joli texte que j'aime bien. Je vous remercie beaucoup, vraiment, vraiment, beaucoup. Vraiment, c'était super. Ouais, je pense que tout le monde peut s'applaudir. Vraiment, voilà. Merci à vous en tout cas. Merci Marco. Voilà, merci.
Merci à Marco de la librairie Claire Obscure, à Viviane Valois et au public présent ce soir-là. Pour clôturer cette émission en musique, on écoute la chanteuse Claire Diterzi et son titre Claire Obscure.
À l'heure où mon oiseau éteint ses ailes, Morphée donne son corps à l'enfance. Mes paupières s'accrochent aux branches. Dans la nuit suis-je à la hauteur. J'attends des lustres dans les ténèbres, seul abandonné entre chien et loup. Rendez-moi la lumière, dans la nuit suis-je à la hauteur. En clair obscur, je broie du noir sur les ruines du sommeil. Son ombre au tableau, je ne vois que la faille. Dans la nuit suis-je à la hauteur. Je t'aperçois tout au bout du tunnel, le jour se lève et dans tes bras y a 36 chandelles. Allons brûler un cierge, dans la nuit suis-je à la hauteur. obscure.